Vendredi 26 avril 2024, il est 18h15 à Niamey, à l'intérieur du pays. C'est l'heure de votre émission hebdomadaire Forum de la presse du studio Kalangou. Un rendez-vous dans lequel nos confrères décryptent l'actualité de la semaine qui s'achève. Pour ce soir, chers auditrices et auditeurs du studio Kalangou et ses médias partenaires, nous avons trois sujets à décrypter. Le premier, c'est relatif au premier ministre du Niger, Ali Mahama Lamine Zen, qui était en visite aux États-Unis d'Amérique, où il a fait plusieurs rencontres. C'était dans le cadre des réunions du printemps des institutions monétaires. Chaque 24 avril, le Niger célèbre la journée de la concorde nationale, une journée qui marque la signature des accords de paix entre les autorités nigériennes et la rébellion des années 1995. Les activités officielles de la 29e édition ont eu lieu à Tintabaraden dans la région de Tawa. Le troisième sujet de ce forum sera consacré aux violences en milieu scolaire. Cette semaine, un fait inédit a marqué les acteurs de l'éducation. Pour décrypter ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Maimouna Jado, journaliste indépendante. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous avons également Arumi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Et enfin, nous avons le doyen Ousseni Issa, journaliste indépendant. Bonsoir.
Bonsoir.
À la modération de ce forum, je suis Tarnan Fouday Ahmed. Comme nous l'avons annoncé, le premier ministre nigérien était aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des réunions du printemps des institutions monétaires. Ali Mahama Lamine Zen, également ministre nigérien de l'économie et des finances, a rencontré Abdoussalam Bello, l'administrateur de la Banque mondiale. Le patron de la Banque mondiale a indiqué que son institution a vocation à rester au Niger et continuer son travail. Monsieur Issa Ousseni, nous allons commencer par vous. Comment analysez-vous ce voyage du premier ministre nigérien et surtout cette rencontre avec la Banque mondiale?
Le printemps, là, c'est une réunion annuelle où pratiquement toutes les institutions des Nations Unies, en tout cas tous les pays qui se reconnaissent à travers les institutions des Nations Unies sont conviés, n'est-ce pas? Peut-être l'année dernière, on a connu un désagrément où on n'a pas été admis, n'est-ce pas? Mais de manière générale, c'est toutes les années que les gens vont. Et chacun vient présenter ses préoccupations au niveau de son pays. Pour moi, ça là, c'est un cirque.
Et pourquoi c'est un cirque?
On ne règle rien. On vient, chacun expose, voilà la situation. Chacun, c'est un discours. Hein. Chacun vient, il fait son discours, son speech. Tout le monde écoute. Souvent, il y a des gens qui n'écoutent même pas. Quand vous voyez les audiences, c'est souvent les pays qui sont puissants, c'est eux qui restent. Quand c'est les pays pauvres, il n'y a plus personne qui reste, les gens s'en vont. Moi, c'est pour ça que j'ai dit. C'est juste une rencontre annuelle où on admet que tous les pays viennent, chacun vient exposer son problème. Les gens se dispersent, les gens font semblant d'écouter, mais on n'a rien appris, on n'a rien compris de ce que toi, tu as comme préoccupation chez toi quand tu es pays pauvre.
Sauf que cette fois-ci, le premier ministre a eu des rencontres et la Banque mondiale a décidé de rester au Niger et de continuer son programme.
Non, il reste au Niger parce qu'ils ont des intérêts, c'est pas autre chose. Comme le FMI, comme les autres, ils ont des intérêts, il faut protéger des intérêts, c'est pas autre chose. Moi, je me fais pas d'illusion. Hein. Moi, je me fais pas d'illusion, on se développe soi-même. Personne ne viendra vous développer. Ils ont imposé des politiques qui ont retardé nos pays. Est-ce que les gens doivent continuer à considérer que c'est à travers ces mécanismes-là, ces institutions-là, qui ont été mises en place par des puissances occidentales à l'époque? Est-ce que c'est à travers ces institutions-là qu'on peut se développer? Alors qu'on a nos propres ressources. Moi, je ne me fais pas d'illusion. Partenariat gagnant-gagnant, ça n'existe pas avec ces gens-là.
Donc, dire là, avec la Banque mondiale, ça n'existe pas.
Tomber, ça n'existe, c'est des mais, programmes d'ajustement structurel. Si on a détruit l'école, on a détruit la santé, on a détruit... C'est des politiques qu'ils ont initiées. Alors, on a vu tout ça. Mais ils vont changer quoi? Je te pose la question, ils vont changer quoi? Parce qu'on ne peut pas dire un pays qui n'a pas suffisamment. Et le taux de croissance est là. Les gens, chaque année, il y a un besoin d'enfants qu'il faut étudier, enseigner, qui ont besoin, y compris dans le village le plus reculé. Et qu'on vienne t'imposer une politique où on te dit non, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Si tu le fais, on ne va pas te donner de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qu'ils nous donnent. On prend nos ressources chez nous, on va de l'autre côté, on nous jette des miettes, on transforme ce que nous avons comme ressources. Maintenant, on nous donne, et ce n'est même pas on nous donne. on nous prête, il y avait des conditionnalités.
Nous allons revenir sur cet aspect, M. Ousseini Issa. La Banque mondiale a évoqué 4 milliards de dollars qu'elle dépense sur 12 projets nationaux et 13 projets régionaux. Au Niger, ces projets concernent l'éducation, concernent la santé et bien d'autres points. M. Armi, selon vous, est-ce que ces voyages du Premier ministre nigérien, on peut les considérer comme un voyage important pour le pays?
Évidemment, c'est quand même le chef de gouvernement, n'est-ce pas, le Premier ministre, qui est en même temps ministre des Finances, qui a effectué ce déplacement. Évidemment, donc c'est important. Ouais, donc je disais, comme Hussein l'a dit, c'est une foire au discours, tout le monde se rend, expose ses problèmes dans l'espoir que ça soit pris en compte par les institutions de Bretton Woods. Mais il faut le savoir, dans tous les cas, depuis bientôt, je dirais 30 ans, sinon 40 ans, en tout cas depuis les politiques d'ajustement structurel, nos pays ou bien nos politiques n'ont pas de programme. On nous a beau chanter lors des campagnes électorales, n'est-ce pas? Voilà le programme de tel candidat, voilà le programme de tel autre candidat. En réalité, quand tu viens au pouvoir, c'est le programme de la Banque mondiale et du FMI que tu vas mettre en œuvre. Mais pour parler de l'éducation, c'est une décision ou c'est un projet de la Banque mondiale qui est à l'origine des problèmes qui ont débouché à la démocratisation du pays.
Vous pouvez nous rappeler c'est quel projet?
Oui, le programme Éducation 3, n'est-ce pas, que l'USN a dénoncé, n'est-ce pas, et combattu parce qu'il y avait le double flux.
Mais vous ne voyez pas en ce moment où le Niger est dans une situation difficile qu'elle a forcément besoin de la Banque mondiale?
C'est inévitable. Le système mondial aujourd'hui, ils sont incontournables. Mais plus tu as des ressources propres, plus tu as des capacités pour investir dans tes secteurs sociaux, plus tu es écouté par ces institutions. Sinon, tu fonctionnes sur coupe réglée. On t'empêche de recruter des fonctionnaires. Donc c'est aussi ça le problème de la Banque mondiale, c'est vraiment de la dictature financière. Et je sais que le Premier ministre sait ce que c'est, mais bon, il faut aller chercher leur argent, n'est-ce pas, pour mettre là où ils ont décidé que tu mettes. Mais il faut savoir que quand tu prends leur argent, y compris la manière d'établir ton budget t'est dictée. Le régime déchu du président Bazoum et celui du président Issoufou étaient obligés de classer, par exemple, le salaire des contractuels de l'éducation et de la santé dans d'autres secteurs qui ne correspondent pas à cette rubrique-là. Tant qu'ils s'entendaient avec eux, ça passait plus ou moins. Sinon, tu n'as même pas, si tu outrepasses leur créneau, tu n'as même pas le droit à une dette. Et donc vraiment, oui, c'est bien les institutions de Bretton Woods, mais il faut compter sur nos ressources propres. Et maintenant, ce qui est, je ne dis pas bien, mais ce qui est marrant avec eux, c'est que maintenant que nous aurons l'argent du pétrole, vous savez que le Niger, on dit que ça sera la plus grosse croissance cette année, 11,2, n'est-ce pas? Et deux chiffres, c'est le temps chanté par le président Issouf, mais qui n'est jamais arrivé. C'est cette année que nous l'aurons, grâce notamment à l'argent du pétrole, à l'avance que les Chinois ont bien accepté nous verser et tout.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve que nous aurons cette croissance-là, cette année que nous avons notre pétrole?
Au moins, une chose est sûre, c'est qu'on a plus d'argent. Ça, c'est sûr. Et nous serons capables de payer des dettes. Et ce qui est avec les institutions internationales, plus tu as la capacité de payer, plus on te donne plus de crédit. C'est le cas les États-Unis sont les pays, et les USA sont les pays les plus endettés au monde. Et on ne peut pas se soustraire au dictat de ces banques-là, mais c'est comme ça que ça fonctionne, il faut faire avec.
Voilà, on ne peut pas se soustraire au dictat de ces banques, comme vous venez de le dire, M. Arumi. Maimouna, lors de ses voyages du Premier ministre nigérien, il s'est rendu aussi au département d'État américain où il a rencontré le haut responsable américain Cela intervient dans un contexte tendu entre les États-Unis d'Amérique et le Niger qui exigent le départ des troupes américaines. À votre niveau, comment vous analysez cette visite du Premier ministre nigérien au département d'État?
Ça tombe à point, puisque il était question donc du départ des militaires américains du sol nigérien. Il fallait, une fois là-bas, aussi s'entretenir avec le département américain pour leur dire voilà ce que les Nigériens attendent, voilà ce que le chef de l'État, du CNSP, attend aussi de ces Américains. Moi, je pense qu'en fait, il était déjà question de parler de ça. Et vous avez déjà vu avec les échanges qu'ils ont eus, quand même, ils ont dit qu'il y aura une équipe aussi. Ils vont envoyer une équipe ici à Niamey pour pouvoir discuter de long en large de comment est-ce que les relations doivent se faire, revoir les différentes clauses en fait qui lient le Niger au département d'État par sur la sécurité, revoir tout ce qu'il y a à revoir. Et je pense que bon, c'est déjà une très bonne chose, puisqu'ils vont envoyer une équipe ici. C'est déjà une très bonne chose et c'est déjà bon de leur dire également que voilà ce que nous attendons de vous. Et sans passer par des courbettes, il faut leur dire la vérité. C'est le retrait des forces américaines du territoire nigérien.
Voilà, le Premier ministre a indiqué qu'une délégation américaine sera à Niamey pour discuter du calendrier de retrait de ses troupes, mais également pour discuter d'autres projets de développement.
Oui.
Déjà, nous savions que MCC est là. Nous savions aussi que USAID est là. Il travaille dans ce sens. Selon vous, dans quel domaine et quel domaine qu'il faudrait rectifier ou bien qu'il faut revoir les accords?
Il faut que ça soit d'abord des accords gagnant-gagnant entre le Niger et les États-Unis, puisque ce sont les accords militaires que les gens ont dénoncés, que le CNSP aussi a dénoncé. Donc, ce qui reste, c'est vraiment de renforcer au niveau donc des ONG, de développement surtout. Comment est-ce que aujourd'hui les États-Unis peuvent amener un plus dans le développement du pays? Peut-être qu'ils vont se dire que même si aujourd'hui les forces américaines quittent le sol nigérien, ils peuvent, pour des formations, pourquoi pas, continuer à former nos militaires, continuer à équiper le Niger avec du matériel. Tout est possible, puisque c'est seulement la présence qui gêne. C'est la présence de ces Américains sur le sol nigérien qui gêne, puisqu'on ne voit pas en fait ce qu'ils sont en train de faire depuis qu'ils sont installés. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont finir, les relations vont s'arrêter, même sécuritaire que ça va s'arrêter. Non, mais ils vont essayer de revoir comment est-ce que nous pouvons aider le Niger, même si nous n'avons pas nos forces américaines sur le sol nigérien. Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui les envoyer, par exemple, aux États-Unis, pourquoi pas, pour une formation? Ou bien est-ce que nos militaires européens et américains aussi pourront pas venir ici pour former les militaires? On en a besoin et également on en a besoin des matériels sophistiqués des États-Unis, bien sûr.
Monsieur Ousseini, une autre question. Le Premier ministre a rencontré aussi la diaspora nigérienne qui a expliqué son vœu de créer des projets pour qu'elle revienne investir au pays. Qu'est-ce que vous pensez de ce vœu? Est-ce que ça tombe à pic dans ce contexte de la sauvegarde de la patrie?
Quoi le projet?
Le projet, ils veulent investir au Niger.
Mais est-ce qu'on a besoin de leur dire d'investir chez eux? Mais sinon, est-ce qu'on a besoin de dire à ces gens-là d'investir chez eux? Mais moi, je suis contre cette façon de voir les choses. Créer les conditions pour que... Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on cherche ce qu'on veut. Tout à l'heure, quand tu parlais de non, il faut qu'on se dise une chose. On a les moyens. Ça fait plus de 50 ans qu'on est en train d'être exploité par ces gens-là. Il faut qu'on cesse de croire que quelqu'un peut venir nous développer. Banque mondiale, FMI, toutes ces institutions-là. Moi, je considère que c'est des systèmes qui sont mis en place.
Mais là, il s'agit de la diaspora nigérienne.
Mais quelle diaspora nigérienne? Tu viens investir, tu viens chez toi. Tu viens. Moi, je suis logé dans des hôtels qui ont été construits par la diaspora. Au Mali, à Bamako. des hôtels où on te dit c'est des hôtels de haut standing qui ont été construits. Mais facilité. Mais non, il faut savoir ce qu'on veut. Moi pour moi, il n'y a pas de raison à ce qu'on pense qu'on va créer les... Quelles conditions? Mettez-vous-même, vous mettez la pression. Mettez. Quand vous voyez ce que la diaspora malienne, par exemple, la diaspora sénégalaise, quand vous voyez tout ça, on a pratiquement les mêmes contextes, les mêmes environnements avec ces pays. Quand vous voyez ce qu'ils font chez eux. Mais maintenant, quand c'est une occasion, parce que le premier ministre est parti là-bas, il a rencontré Banque mondiale, il a rencontré les autres, les gens viennent s'asseoir, il faut créer. Quelles conditions? Je vais investir chez moi. D'abord, c'est pour ma sécurité personnelle. Parce que le jour où je suis vieux, quand je serai vieux là, il me faut venir à la maison. Si j'ai rien, j'ai tout dépensé ou j'ai mis ça dans des bêtises. Je vais faire quoi?
Oui, mais il évoque des tracasseries administratives, la c'est facilité des papiers.
Tout ça, moi, je pense, c'est un discours qu'on a entendu depuis longtemps. Depuis longtemps, il y a eu même des transformations ici au niveau de la chambre de commerce. Comment on peut créer une société, une entreprise et tout et tout. Moi, j'ai dit une chose où on sait ce qu'on veut. Mais moi, je suis convaincu d'une chose aussi. Et je suis convaincu profondément d'une chose. Personne ne va venir te développer. Pas Banque mondiale, pas FMI, personne. Où tu sais ce que tu veux. Comme les pays là, les pays asiatiques là, qui étaient au même niveau que nous jusqu'aux années 80. Ils étaient au même niveau, peut-être même plus pauvres que nous. Aujourd'hui, ces pays-là, nous importons tout de ces pays, comme la Chine. Alors, quand les gens ne peuvent pas comprendre, ah, ils vont venir, ils vont nous donner, tu vas me donner de l'argent, je vais rembourser. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais finir de rembourser ce que tu m'as donné. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal?
Voilà, Mamouna, est-ce que ça c'est normal? Nous allons revenir vers vous.
Oui, en fait,
Mamouna, est-ce que c'est normal?
Oui, bon, c'est pas du tout normal. Et je pense que la diaspora, investir, quand on dit investir, là, est-ce qu'on a besoin de venir faire des gros standing ici, à Niamey? Il faut retourner, chacun de nous doit retourner dans son village. Il y a les élèves, il y a des enfants qui ont besoin de classe, qui ont besoin d'éduquer, d'une éducation, une bonne éducation. Il y a des femmes qui aujourd'hui font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher l'eau. Il y a aujourd'hui la santé où il y a des cases de santé qui n'ont même pas de médicaments. Si vous voulez investir là, mais c'est mieux d'investir à la base. Venez investir à la base. Et si chacun de nous, ou chacun de ces Nigériens qui sont à la diaspora, investissait non seulement dans leur propre village, je vous assure, il n'y aura plus de tracasserie. Ce que l'État allait augmenter, ça ne serait pas beaucoup, en tout cas comme attente. Il faut aujourd'hui qu'ils se mettent dans la tête que on ne peut pas aujourd'hui être dans un pays là-bas, prendre tout son temps, parce qu'il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans ces pays-là, ou plus même. Et aujourd'hui, quand tu vas pour visiter, ne serait-ce que leur village que je viens de dire, il n'y a même pas, il n'y a que des problèmes.
Mais c'est Arumis, à chaque fois, ces Nigériens de la diaspora, ils feront CV. Nous voulons retourner au pays, facilitez-nous les investissements. Est-ce qu'ils ont besoin de tout ça là?
En fait, c'est important d'abord de rappeler ce que la diaspora fait dans la sous-région. Ousseyni a évoqué le cas du Mali, du Sénégal. Le Mali, il faut aller dans la région de Kaï pour voir ce dont ont été capables la diaspora malienne, notamment en Europe. Aujourd'hui, c'est à Kaï que tout le Mali se rend pour travailler pour eux, parce que leur diaspora a eu à investir énormément. Et avant cette situation, parce que bon, là, les choses ont changé et tout, mais le Mali, l'apport de la diaspora malienne était de loin supérieur à l'aide publique au développement donnée par les pays qu'on connaît. Mmh. N'est-ce pas? Autrement dit, mais il faut aussi savoir une chose, ils sont un tout petit peu en avance sur nous. Par exemple, des lois comme celle qui vient d'être abrogée par le CNSP,
la loi 2015-036,
ne peut pas être décidée au Mali parce que tu vas avoir toute la population malienne dans ton dos. Ceci étant, il ne faut pas se voiler la face. La création de l'entreprise, l'investir au Niger a toujours été un problème. On connaît des sociétés qui ont ouvert, qui ont même construit des bâtiments ici, mais qui sont allés finalement investir au Mali. C'est la même chose, que tu sois Nigérien ou pas. Aujourd'hui, on a combien de Nigériens au Mali? On parle des États-Unis, des Nigériens au Togo, au Bénin, n'est-ce pas, qui aimeraient bien investir au Niger. Mais la tracasserie, on a hérité ces choses-là de la colonisation et on n'arrive pas à s'en départir. C'est-à-dire enquiquiner, vraiment demander tel papier, exiger tel autre, alors que l'essentiel, on sait que c'est de créer cette entreprise-là, créer de la richesse pour le pays, créer de l'emploi pour les enfants du pays. Donc, ça, c'est une triste réalité aussi. Mais toujours est-il qu'il faut avoir ce réflexe. Quand tu es allé t'établir ailleurs, oui, c'est bien quand ça marche et tout, ouais, mais investir chez soi, c'est toujours un plus. On ne doit pas être confronté, les blocages ne doivent pas nous décourager, ne doivent pas les décourager parce que c'est eux qui s'en plaignent. C'est sûr qu'il y a de la facilité. Il faut aussi reconnaître qu'ici, beaucoup d'efforts a été fait. Hein. Aujourd'hui, en une journée, tu peux avoir ton numéro d'immatriculation fiscale. C'est déjà un pas. Bon, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé.
Quel est votre message à l'endroit de cette diaspora?
Non, je crois qu'ils ne doivent pas se décourager, qu'ils doivent avoir l'esprit vraiment tourné vers la patrie, vers le pays en permanence. Qu'est-ce que j'ai fait pour ce pays qui m'a tout donné? Qu'est-ce que j'ai fait pour le pays de mes ancêtres, le pays de mes enfants? N'est-ce pas, Hossein a dit, quand je vais vieillir, je vais revenir ici, il faut que je me construise au moins un toit où je vais m'abriter. Ça, c'est important aussi.
Voilà, merci à vous trois pour vos premières analyses pertinentes sur ces sujets. Nous allons marquer une pause avant de revenir sur notre deuxième sujet. Voilà, le deuxième sujet de cette édition est consacré à la journée de la Concorde nationale, la 29e édition célébrée ce mercredi au Niger. Le Premier ministre a effectué un déplacement à Tintabaraden dans la région de Tawa. Madame Maimouna, je vais commencer par vous. 29 ans après la signature de ces accords, quel bilan peut-on tirer?
29 ans après la signature des accords de la journée de la Concorde, il y a un bilan positif comme il y a aujourd'hui des bilans aussi négatifs. Puisque les accords, ça a permis en tout cas de stabiliser l'insécurité qui prévaut, qui à l'époque était vraiment dans cette partie de la zone de Vertawa et les autres, quoi. Et je pense que c'est il faut également louer l'effort des autorités de l'époque qui ont su en tout cas maîtriser la situation et arriver jusqu'à ce que ceux qui avaient pris les armes ont pu déposer les armes pour pouvoir aller vers une paix. Et comme je dis, la paix, ça doit être consolidée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore retournés vers ce qui se passait avant cette signature de la Concorde? Puisque aujourd'hui, pratiquement, nous sommes également revenus dans cette situation d'insécurité.
Sauf que ce ne sont pas les mêmes acteurs.
Oui, ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce sont seulement les acteurs qui ont changé. C'est ça, en fait, la difficulté. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, il faut revoir pour pouvoir aller dans le sens également de voir comment est-ce qu'il faut faire avec ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir stabiliser cette zone ou stabiliser également le Niger qui fait face à cette insécurité. Quels sont aujourd'hui ceux qui devraient être les acteurs peut-être qui ont pu à l'époque, parce qu'il y a les acteurs qui sont là, qui ont pu à l'époque arriver à maîtriser la situation. Est-ce qu'aujourd'hui il serait pas bon également de mettre ces acteurs-là à contribution pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent aussi faire davantage?
Vous avez parlé de la contribution pour la consolidation de la paix. Quel doit être le rôle des femmes?
Les femmes contribuent énormément parce que quand il y a des difficultés, c'est la femme. Donc la femme, elle est obligée aujourd'hui d'être une actrice de paix et de sécurité. Non pas seulement parce qu'il y a cette insécurité, mais la femme doit aller vers cette consolidation. Là, les femmes s'investissent en tout cas au devant de cette insécurité pour trouver une solution à la paix.
Monsieur Ousseini, parmi les acteurs qui ont joué un rôle déterminant dans la consolidation et la restauration de la paix, figurent les journalistes. Quel a été leur rôle?
D'abord, il n'y a plus de paix. On est revenu dans une situation incontrôlable. À l'époque, on savait au moins que c'est des groupes formalisés qui entretenaient cette insécurité. Aujourd'hui, le mal est partout. Même les grandes villes comme Niamey, on t'arrache ton sac.
Mais sauf que ça, c'est le cas des banditismes résiduels. Ce sont des choses
visibles. Non, mais
visibles.
Moi, je veux dire une chose. Oui. Il ne faut pas se voiler la face. Les médias ont tout fait. Les médias ont accompagné le processus, toutes les signatures là, n'est-ce pas? Mais quand je vois comment cette fête-là est célébrée, mais je me dis quelque part, à la limite, c'est juste un cirque. Il se déplace, il va à Kintaparadon, il fait son discours et puis il revient. On a démantelé les fondements parce que la cohésion sociale, l'unité nationale s'est sentie partout où on se trouve sur le territoire national, qu'on se sente qu'on est chez soi. C'est ça le plus important, moi, je pense. C'est la paix qui permet de faire tout. Alors, c'est ça la chose la plus importante et que les gens doivent comprendre au nom de la politique. Les gens ne doivent pas briser cette chose qui est quand même fondamental.
Vous l'avez dit, c'est la paix qui permet de faire tout. Pour accompagner ces accords de 1995, la décentralisation a été déclenchée au Niger. Déjà en 2004, nous avons pas mal de communes. Récemment, ces communes étaient au nombre de 266. Elles ont été dissoutes récemment par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Des administrateurs délégués militaires et civils ont été nommés. Selon vous, quel rôle doivent-ils jouer pour conserver cet acquis qui est la décentralisation et surtout concilier les dés, la gestion de ces communes et la consolidation de la paix?
Vous savez, les organisations rebelles qui ont sévi au début des années 90 et qui dont la négociation avec elles ont abouti à ces accords-là que nous fêtons chaque année le 24 avril, avaient pour une des exigences le fédéralisme. À défaut, les gens ont opté pour la décentralisation. Autrement dit, la décentralisation chez nous vraiment a une histoire. Il faut aussi le dire que malgré tout, les accords de la paix que les Nigériens ont signés entre eux, n'est-ce pas, ont mieux marché que ce qui a sévi dans le pays voisin, le Mali. Ceci étant vraiment la décentralisation, on dit que c'est pour amener l'autorité à côté du citoyen, n'est-ce pas, pour une meilleure accessibilité vraiment aux prestations, je dirais, de l'administration publique. Parce que avec la décentralisation, le citoyen qui veut un papier d'état civil, qui veut un papier pour sa maison, qui veut est à côté de ceux qui décident et la population est donc capable de s'adresser pour vraiment, c'est pour faire participer la population, n'est-ce pas, au processus de développement d'abord vraiment de son terroir direct.
Donc qu'il soit un élu local ou un militaire nommé ou un civil
je
nommé,
ne suis pas d'avis rien. Je ne suis pas d'avis. Je crois que nous sommes dans une période de transition. Et que ces délégués, ces administrateurs délégués qui ont été nommés, c'est pour une période de transition. Et que le jour où on reviendra à un processus démocratique, il y aura des élections pour élire le président de la République, les députés, mais aussi les élus locaux. Aujourd'hui, je crois que c'est reculé que de dire qu'on peut s'en passer définitivement. Et d'ailleurs, j'ai vu un papier qui mettait en place le comité pour l'opérationnalisation d'une confédération entre les pays de l'AES, n'est-ce pas? C'est la même chose, c'est comme quelque chose qui va un peu au-delà de la décentralisation. En ce moment-là, le Niger serait une entité décentralisée de l'AES, n'est-ce pas? Et si donc au niveau local, il n'y en a pas, il y a une rupture. Même dans ce cadre-là, si les gens tiennent vraiment à ce processus de mise en place de l'AES, je pense que la décentralisation est une suite logique à ça.
En une minute, M. Ousseini, selon vous, comment il faut ramener la paix dont vous avez dit qu'elle n'existe pas aujourd'hui?
Il faut amener la justice sociale. Il n'y a pas un autre miracle. Hein. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Qui que tu sois, quand tu commets un tort, que tu sois dirigeant, que tu sois simple citoyen, il faut que la justice prévale. Ce n'est pas autre chose. Hein. Ouais. Tous les problèmes qu'on vit dans ces pays-là, pourquoi ça marche chez les Occidentaux? Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Pourquoi la démocratie marche chez eux? Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Tu ne viens pas faire la politique. Qui que tu sois, si tu voles l'argent public, tu vas aller répondre. Tu vas rendre gorge. Ici, chez nous, parce que tu as une casquette de machin, on va dire non, mais ce monsieur, il faut le protéger. Il faut qu'on arrête ça. Si tu n'es pas là pour servir les gens, tu n'es pas là pour le voler.
Maimouna,
laisse-moi
qu'est-ce
finir.
Que vous pensez? Juste une minute, Maimouna, qu'est-ce que vous pensez, vous?
Oui, bon, je pense qu'il a touché du doigt le problème crucial, en tout cas, de déstabilisation du pays. Avec cette justice sociale, il faut nécessairement d'abord qu'on passe par la justice sociale, qu'on mette en place, on l'a toujours dit, une justice qui va s'occuper, en tout cas de rendre la justice équitablement entre tous les Nigériens. Mais tant qu'il n'y a pas cette justice sociale, je pense que la paix serait toujours en danger.
Monsieur Arumi, est-ce qu'à part la justice sociale que nos confrères ont évoqué, il y a autre chose?
Il y a quelques années, j'ai lu une étude qui prétend que 90% des jeunes, notamment dans la région de l'Iptako-Gourma, qui s'engagent avec les terroristes, 90% n'y vont pas pour des raisons religieuses. Seuls 10% peuvent évoquer la religion. Autrement dit, les autres partent à cause de l'injustice, à cause de la pauvreté, à cause du manque de travail, pour se protéger, pour protéger leur pays, pour leur famille, ainsi de suite. Et donc, si on veut combattre vraiment dans son fond, vraiment à la base, cette insécurité-là, on sait où est-ce qu'il faut chercher. Moi, ce qui m'étonne, c'est la banalisation vraiment de la justice. On parle tous de la justice, mais j'ai l'impression que les gens prennent ça tellement à la légère.
C'est sur ce sujet passionnant que nous allons marquer une pause avant d'entamer notre troisième sujet. Notre troisième sujet est consacré à la violence en milieu scolaire au CS Lazaret de Niamey. Le débat est ramené sur la table. Un élève de seconde a attaqué son enseignant avec un gourdin, a précisé une décision du gouverneur de la région de Niamey en date du 22 avril 2024. Un cas de rare violence encore enregistré. Monsieur Ousseini, qu'est-ce qui explique cette violence?
Qu'est-ce qui peut expliquer cette violence? Il y a un élève dans la région de Marie, il y a quelques années, qui a poignardé son enseignant, qui est parti chercher le couteau à la maison pour venir. Pendant que l'enseignant était au tableau, il lui a mis le couteau. Alors, qu'est-ce qui engendre cette violence? Mais les facteurs sont nombreux.
Vous pouvez me citer quelques-uns?
D'abord,
ou trois,
le premier facteur, quelque part, on dit la démission des parents, parce que l'éducation que les enfants reçoivent aujourd'hui, on dit l'enfant est plus fort que moi. Comment toi, moi, je t'ai mis au monde là, tu peux être plus fort que moi? Ça veut dire que je te laisse faire ce que tu as envie de faire parce que tu as grandi. Non, tu n'es pas plus fort que moi. Quand le parent considère que l'enfant là, je ne fais pas le coup. Et l'enfant, il vient, il menace. Parce que la violence et l'alcool là, ça commence à la maison même. Dieu seul sait si cet enfant là n'a pas menacé une fois ou deux fois ses parents. Il peut penser qu'à ce moment-là, il peut aller même à l'école, il peut transposer cette violence à l'école. C'est quoi le problème? L'enfant, on te trouve en train de tricher. On te met dehors. Ça doit être une honte pour toi. Mais il n'a pas perçu ça comme une honte. C'est une humiliation. À ses yeux, c'était une humiliation. L'enseignant ne devait pas. Il faut aller fouiller en profondeur aussi. Quel est le comportement des enseignants? Parce que quoi qu'on dise, il faut aussi investiguer un peu. Parce que moi, souvent je dis, je connais des enseignants jusqu'au niveau supérieur. Ça dépend de quel type de relation tu entretiens avec tes enfants. On a créé ces conditions pour faire en sorte que l'enfant puisse considérer qu'il est au même niveau et que l'enseignant là, je peux l'agresser. Et c'est pas ce qui n'est pas, ce qui n'est pas normal du tout. Mais il faut pas, parce que la familiarité a une limite avec l'élève. Ça a une limite. Il faut mettre des limites, il faut mettre des garde-fous. n'est-ce pas? À l'époque, nous, quand nous étions dans de ces niveaux-là, quand tu vois ton enseignant, vous vous croisez à distance, tu le vois, tu fuis. Vous n'allez pas vous croiser parce que tu sais que demain, ça va être le châtiment.
Maimouna, selon vous, pourquoi encore ces violences?
En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur que aujourd'hui les parents ont démissionné dans l'éducation des enfants. La société a démissionné complètement dans l'éducation des enfants. Mais quand aujourd'hui un parent se transporte à l'école, parce que tout simplement l'enseignant a essayé de raisonner l'enfant, le parent, au lieu d'écouter, même si tu vas aller régler certaines choses, ne montre pas à ton fils ou bien à ta fille que tu peux te transporter à l'école pour pouvoir faire du scandale. Maintenant, il y a les types de relations entre l'enseignant et son élève. Il y a des relations où ça doit être strict. C'est des relations d'enseignant à l'élève, point barre. Il ne devrait même pas avoir une relation d'amitié, d'affinité entre l'élève et l'enseignant. Mais aujourd'hui, les élèves n'ont pas peur de leur enseignant parce que tout simplement, je me dis, de l'autre côté, c'est l'approche éducative même qui manque. La pédagogie manque à un certain niveau. Quand cette pédagogie manque à un certain niveau, mais c'est bien normal aujourd'hui qu'un élève se dit plus fort que même son enseignant. C'est ça le gros problème. Et aujourd'hui, je suis en fait dans cette position de voir que l'enseignant, qu'est-ce que l'enseignant a pu dire à cet enfant? Puisque si c'est seulement sors de ma classe, tu es en train de tricher, je te donne zéro. Moi, je vois pas en quoi l'élève va aller l'attendre devant la porte là-bas. Donc, il faut essayer de réexaminer, essayer de fouiller et essayer également de revenir à la base. Parce que l'éducation, ça commence chez nous à la maison. C'est pas à l'école d'éduquer. L'enseignant n'éduque pas, mais l'enseignant est là pour enseigner, instruire. Il faut que les parents sachent ça.
Mais c'est Arumi, l'élève a été exclu de tous les établissements scolaires de Niamey sur une décision du gouverneur de la région. De Niamey, est-ce une sanction méritée?
Non, à mon avis, Honoré, est-ce qu'on a présenté cet élève devant un psychologue? C'est important. Il peut être malade, cet enfant, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'il sache qu'on ne se rend pas justice, quel que soit. Et ce n'est pas monnaie courante. Moi, je n'ai pas. Ousseine a rappelé le cas qui s'est passé à Maradi il y a plusieurs années, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours. Et on sait qu'on a quand même beaucoup d'élèves, hein. C'est des millions qu'on a maintenant, les enfants au primaire et au collège et au lycée, n'est-ce pas? Et ce n'est pas toujours qu'il y a un enfant qui agresse son enseignant. Il faut, je crois, quand ça arrive, n'est-ce pas, avoir la tête froide et vouloir vraiment prendre les décisions qui s'imposent. Oui, là, c'est peut-être des mesures conservatoires, mais cet enfant doit être examiné médicalement. Parlant, s'il est bien portant, oui, son exclusion marche. Sinon, il faut le soigner. Ça, c'est une des choses. Maintenant, quel que soit les pays, même les pays occidentaux, n'est-ce pas? En France, ça arrive plus que ça n'arrive au Niger, par exemple. Et ça aussi, on pense que c'est leur éducation. Nous, à notre temps, pourquoi on craignait l'enseignant? Bon, l'enseignant pouvait te battre. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est contre le droit de l'enfant de le battre, de le châtier à l'école. Ok, mais quelles sont les mesures qu'on a prises pour que l'élève respecte? Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir peur. Nous, on craignait nos enseignants parce qu'ils peuvent te battre. Parce que ton papa ou ta maman va le soutenir, n'est-ce pas? Maintenant, il faut qu'on crée les conditions pour que l'enseignant soit respecté particulièrement de ses élèves. Ce n'est pas le cas. Est-ce que l'enseignant ne se reproche pas quelque chose, n'est-ce pas? Parce qu'un élève qui a été pris en flagrant délit de tricherie, il doit se cacher normalement, il doit avoir honte, parce que c'est du vol, pour vraiment parler sans gants, n'est-ce pas? Mais voilà, il est allé chercher un gourdin.
Donc selon vous, cet enfant pourrait avoir des problèmes
psychologiques? Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible et c'est des mesures à prendre quand ça arrive. Ou un enseignant aussi qui bat tous les jours ses élèves, lui aussi, il faut l'examiner. C'est extrêmement important à mon avis. Ce n'est pas une façon de supporter les élèves, mais ce n'est pas monnaie courante. Il ne faut pas qu'on se scandalise, qu'on en fasse vraiment, que tous nos enfants ne sont pas comme ça. Je peux mettre la main au feu que 95% de nos enfants ne sont pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'en tant que parent aussi, tout le monde, et l'enseignant qui a certainement des élèves, des enfants lui aussi, on s'occupe quand même avec les moyens qu'on a correctement de nos enfants. Donc c'est un cas sur des millions d'altercations qu'il y a dans le mois ou dans l'année qui arrive à ce niveau-là. Plutôt, il faut vraiment s'inquiéter pour analyser avec beaucoup de lucidité et prendre les mesures qui s'imposent. Bon, l'enfant, là, il est exclu, peut-être que c'est conservatoire, mais il faut vraiment trouver les moyens de voir plus clair.
Mais Mouna, selon vous, qu'est-ce que cet enfant va devenir ? Parce que c'est un élève qui se trouve en classe de seconde, là, il est exclu de tous les établissements scolaires de Niamey.
D'abord, pour l'avenir, il n'y a pas d'avenir, parce qu'il va se retrouver dans la rue. Il va faire quoi ? Psychologiquement, ce qui lui est arrivé aujourd'hui, ça va le poursuivre. Ça va le poursuivre, donc ça sera un délinquant de plus. Ça sera un autre bandit de plus que on doit, qui sera à la rue. Parce que être exclu de toutes les écoles, c'est quand même sévère. Et l'acte qu'il a posé est très grave. Mais quand même, il y a des mesures conservatoires. Il y a des mesures à prendre petit à petit. Il y a des mesures de sanction pour en arriver à ce qu'ils ont fait, l'exclure définitivement. Je pense qu'on ne peut pas être en classe de seconde et retourner dans la rue quand même.
Monsieur Ousseni, vous pensez qu'il y a une autre mesure, autre que l'exclusion dont cet élève
a bénéficié? Il faut qu'on regarde l'éducation avec lucidité. Ouais. On a un problème dans le secteur de l'éducation, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont posés. Tous ces actes-là, ces cas-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je viens de citer, il y a récemment, dans la région, je ne sais plus, c'était dans la zone de Madarounfa, ou à Maradi, où un élève est parti prendre un couteau pour venir poignarder. Tout ça, on va, ça scandalise, subitement, ça scandalise les gens. Tout le monde se met à protester. Mais on ne cherche pas à savoir exactement c'est quoi le problème. On se met dans une situation où il faut sanctionner. Mais la sanction ne règle pas forcément les choses.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il faut étudier, il faut mettre le problème sur la table. Quel est le problème de l'école aujourd'hui? Quel est le problème? Quel est le problème? Et à tous les niveaux, je ne parle pas simplement des étudiants, des enseignants, des machins, c'est à tous les niveaux. Comment l'enseignant se comporte à l'école? Il faut aussi se le poser. Parce qu'aujourd'hui, on voit juste l'acte que l'enseignant, que l'élève a posé. On ne cherche pas à savoir c'est quoi, peut-être il y a des antécédents par rapport à cette situation. Moi, je vais dire une chose, il faut poser le problème. Il faut le comportement de l'enseignant. Parce que quand tout à l'heure, j'ai dit, ton enseignant, tu ne peux pas le croiser dans la rue, tu fuis. Quand vous vous croisez, là, il vient, vous êtes dans le sens inverse, là. Vous êtes en train de vous croiser, tu vas fuir. Parce que tout simplement, l'enseignant inspire la crainte. Parce que tu sais que demain, il va t'interroger dans la classe. Tu sais pas, il va te chicoter. J'étais vu en train de circuler. Le parent ne va pas s'élever pour aller le trouver à l'école pour dire pourquoi tu as cogné mon enfant. On a vu des cas où des parents se sont coalisés pour aller cogner des enseignants. Alors, quand il y a tout ça là, et que les gens ferment les yeux, non, c'est un problème sérieux qu'il faut mettre sur la table. Il faut débattre pour voir dans quelle mesure on peut créer les conditions. Il y a une familiarité qui est née entre les enseignants et les élèves, qui n'existait pas avant. Non. Le maître t'appelle, il t'envoie. Il te fait venir chez lui pour laver les habits, pour faire la vaisselle chez lui. Tu es obligé de faire, et le parent ne va jamais s'opposer. Alors, on a perdu tout ça, toutes ces valeurs-là. Il faut créer les conditions pour que l'élève ne considère pas que son maître-là, il est au même niveau que lui.
Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Ousseni. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Maimouna Jado, journaliste indépendante. Arumi Abba, vous êtes journaliste au niveau d'Alternative. Merci d'avoir répondu à nos questions durant ce forum de la presse. Moustapha Ayouba était à la technique. Moi, Ternan Fouda Ahmed, j'étais à la modération de ce forum. Bon week-end à tous.